Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, révolution sexuelle, devoir d'inventaire. Bonjour Malka Markovitch.
Bonjour.
Vous êtes historienne, militante féministe, consultante internationale sur les droits des femmes. Vous avez publié chez Albin Michel en 2018 « L'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle ». Alors s'agit-il d'un vrai moment de bascule? Il faudra attendre pour en juger, mais quelque chose se passe en France depuis quelques mois sur les traces du mouvement MeToo. Une libération de la parole d'autant plus spectaculaire que cette parole fut longtemps interdite. Après l'actrice Adèle Haenel, c'est l'éditrice Vanessa Springora qui rompt ce silence pour raconter les agressions sexuelles dont elle fut victime lorsqu'elle était une jeune adolescente. Leurs témoignages, en particulier autour de l'affaire Matzneff, font l'effet d'un retour à la lucidité après une longue gueule de bois. Comment la société a-t-elle pu accepter que se commettent de tels actes sans qu'ils soient réprimés? Pire, avec l'aval d'une partie du monde intellectuel et culturel. Alors pour comprendre ce qui a autorisé de tels excès, il faut forcément revenir en arrière à la fois au contexte de l'époque et à ce qui avait contribué à la façonner. Les années 70 sont celles de la révolution sexuelle dans la continuité directe de mai 68, un formidable moment de libération et d'émancipation, mais elles ont aussi fait naître quelques monstres alors que le monde politique parvenait plus ou moins bien à accompagner le mouvement. Révolution sexuelle, devoir d'inventaire, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique. En votre compagnie, Malka Markovitch, vous vous présentez dans l'introduction de votre ouvrage comme une petite sœur de baby-boomer née au tournant des années 50-60. Est-ce que l'idée de ce livre, c'était aussi de raconter ce qu'a été mai 68, non pas du point de vue de quelqu'un qui l'aurait vraiment directement vécu, mais qui en aurait été le témoin un peu en direct en regardant les grands frères et les grandes sœurs le vivre?
Oui, je suis née en 1959, donc j'ai tout juste 60 ans. Et en réalité, cette idée m'est venue après une discussion avec une journaliste féministe, historienne également, qui s'appelle Natacha Henry, qui avait écrit un livre sur qui s'appelle « Les mecs lourds » ou « Le paternalisme lubrique » qui racontait certains comportements d'hommes dans les années 80-90. Et elle me disait « Écoute, il y a un chaînon manquant, c'est-à-dire qu'on connaît les grandes révolutions des femmes pour le droit à l'avortement et la contraception, on connaît Simone de Beauvoir, on n'en est pas femme, on le devient, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ta génération ? Et je me suis rendu compte que pour ma génération, en réalité, on a été complètement émerveillé par ce mouvement, surtout quand on était proche de certains milieux, et que notre adolescence s'est déroulée dans cette période des années 70 où il était interdit d'interdire et où il fallait jouir sans entrave.
Alors elle n'est pas tout à fait de cette génération-là, mais on peut la considérer comme une petite sœur, en tout cas de mai 68, Vanessa Springora, puisque elle est née en 1972. Elle a donc publié il y a quelques semaines de cela chez Grasset Le Consentement, dans lequel elle raconte sa relation lorsqu'elle est une jeune adolescente avec l'écrivain Gabriel Matzneff. Elle est venue en parler dans la matinale de France Culture chez Guillaume Erner. C'était le 3 janvier dernier. Elle évoque cette relation vécue sous l'œil complaisant du monde adulte.
Je pense qu'il y a une sorte d'accoutumance. Finalement, pour certaines personnes, il s'agissait de complaisance. Pour d'autres, il s'agissait de simplement de... On passe vite à autre chose, on se dit bon ben c'est une histoire comme ça, ça doit être une histoire d'amour puisqu'elle la vit, puisque personne ne dit rien autour d'elle, c'est que finalement il y a rien de grave. C'est difficile de me mettre à l'intérieur de l'esprit des gens autour de moi de cette époque. J'ai pu en parler avec ma mère par exemple, qui elle est vraiment dans le regret aujourd'hui de pas avoir été plus loin, de pas avoir été beaucoup plus interventionniste, mais elle, effectivement, était dans un état d'esprit qui ressemblait à celui de la fin des années 70, qui était « il est interdit d'interdire ».
Malka Markovitch, est-ce que cette, appelons-la, affaire Matzneff-Springora, elle illustre, ou en tout cas, elle est une des illustrations de cette face cachée de la révolution sexuelle.
Voilà, ce que disait Natacha Henry aussi, et ce que j'écris dans mon livre, c'est que il y avait aussi cette idée que si on était né en 68, on était par essence libéré de toute oppression bourgeoise, puisqu'on était évidemment né dans un contexte où la bourgeoisie avait volé en éclats, où la famille n'existait plus et où finalement, effectivement, on pouvait passer les générations sans aucun problème. Mats Neff est un cas emblématique et Vanessa Springora est une extraordinaire écrivaine et c'est pour ça que ça a été comme ça une espèce de coup de poing. Mais combien de femmes ont témoigné et on ne les a pas écoutées? J'en ai pour preuve, dans le livre, j'ai interviewé une quarantaine de personnes nées entre 1942 et 1971. Et il y a le témoignage d'une femme qui s'appelle Georgina, qui raconte que quand elle en parlait à ses professeurs, elle a vécu une histoire incestueuse avec ses frères et sœurs et ses cousins, et quand elle allait en parler donc dans les années 75-76 à ses profs au lycée, elle le disait d'une manière bravarde, très fière d'elle, je suis libérée et transgressive, et les profs trouvaient ça super. C'est-à-dire qu'il n'y a eu personne pour dire il y a un problème.
Alors justement, pour comprendre pourquoi finalement il n'y a pas eu de réaction par rapport à ces abus, en tout cas ce qui apparaît évidemment aujourd'hui comme des abus, Malka Markovitch, il faut remonter encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire voir dans quelle société est née finalement cette révolution sexuelle. Alors partons par exemple de la libération, enfin alors, c'est la libération de la France, c'est pas forcément la libération des mœurs, c'est quand même une société qui sort de la Seconde Guerre mondiale toujours extrêmement, on va dire, engoncée par rapport aux mœurs.
Sur les mœurs, on est De Gaulle, c'est la filiation de Pétain, hein, je veux dire l'avortement est réprimé, les femmes viennent d'avoir accès au droit de vote, mais dans le même discours où il donne aux femmes, où il concède aux femmes le droit de vote, il appelle de ses voeux 12 millions de bébés qui vont redonner de la force à la France. Et ce seront justement cette génération de baby-boomers.
Écoutons-le justement, ce discours de De Gaulle. Enfin, je ne sais pas si c'est celui auquel vous pensez, mais en tout cas, ça se passe le 31 décembre 1945. Donc Charles de Gaulle est le chef du gouvernement. Il adresse ses voeux aux Français et aux Françaises.
Que nos voeux aillent enfin à tous ceux et à toutes celles que leurs mamans mettront au monde dans les 12 mois prochains et qui seront la joie des foyers et l'avenir de la patrie. En 1945, la France a su gagner la guerre. En 1946, elle saura gagner sa vie.
Malka Markovitch, on est quand même loin là du planning familial, par exemple.
On est très loin du planning familial et à cette époque, voilà, des militantes, des médecins, je pense notamment à Suzanne Kepes dont je parle dans le livre, vont commencer à partir en Angleterre pour ramener des diaphragmes. Les préservatifs sont utilisés dans le milieu de la prostitution et dans le même temps, on va avoir en 1948 le deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui va être libératoire pour beaucoup de femmes.
Et est-ce que ça veut dire ça, Malka Markovitch, qu'il y a aussi un décalage? Alors on peut le constater assez souvent, d'ailleurs pas seulement sur ces sujets des mœurs, mais entre, on va dire, une société qui commence à bouger et un pouvoir politique qui est peut-être un peu figé, ou en tout cas qui n'a de la sexualité qu'une vision très utilitariste, c'est-à-dire pour au service d'une politique nataliste.
Au service d'une politique nataliste et quels que soient les partis. C'est-à-dire qu'on est, après la guerre, avec deux grands partis, enfin deux grandes tendances, et le Parti communiste à l'époque, a aussi une politique nataliste. Et donc là, on est véritablement à la fois dans la stigmatisation de la collaboration dite horizontale, puisque là, de nouveau, c'est la France virile qui reprend le pouvoir et il y a peu de...
Voilà, vous faites allusion, là, c'est un article, hein, que vous mentionnez dans votre livre, de la Renaissance républicaine du Gard. Avec cette formule, la France retrouve sa dignité perdue, elle sera virile ou morte.
Exactement. Donc on est vraiment là-dedans. Et puis en même temps, il y a ceux qui continuaient à vivre dans une espèce de période grise, justement à Saint-Germain-des-Prés, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras, où là, il y a aussi des tabous qui sont transgressés parce que c'est contre une vision totalement archaïque et familialiste qui est remise en question également.
Au fait, Malka Markovitch de Saint-Germain-des-Prés, un mai 68 avant l'heure, est-ce que c'est ici, enfin en tout cas à cette époque, et dans ces lieux que commence à se penser ce qu'on appellera la révolution sexuelle ?
Elle se pense pas, elle se fait. C'est-à-dire dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, on se drogue, on fume. Juliette Gréco parle très bien de la manière dont se pratiquent les avortements clandestins. C'est quelque chose qui n'est pas tellement nouveau. D'ailleurs, même à l'époque de Baudelaire, les paradis artificiels, tout ça, c'est pas quelque chose qui est né en 68.
C'est pas très nouveau, mais ça reste, on va dire, relativement localisé. À partir de quel moment on en voit des signes un peu plus manifestes? Il faut évidemment pas attendre mai 68, il y a déjà quelques événements qui ont lieu avant. Alors sur le plan politique, il y a par exemple la légalisation des contraceptifs, c'est la loi Neuwirth en 1967.
C'est déjà tard, hein. Le ouais. Rock'n'roll existe déjà en Angleterre et les Beatles, etc. C'est avant 67, c'est-à-dire que tout ça fait partie d'une espèce de bouillon de culture.
Avant 67, il y a d'ailleurs 66. Et les premiers sex shops.
Les premiers sex shops. Et puis cette idée, malgré tout, dans Le Repos du Guerrier, avec la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine, ou les bordels militaires de campagne, et cette vision des besoins irrépressibles des hommes, et qu'il faut des contenants pour... Donc on est à la fois dans une société extrêmement rigide, mais pleine de représentations très archaïques sur la sexualité humaine. Et c'est dans ce bain-là que vont être élevés ces baby-boomers, c'est-à-dire à la fois où on va encore déniaiser les garçons au bordel et on leur dit encore qu'il faut être viril et les femmes qu'elles doivent encore faire attention. Je veux dire là cette crainte de la grossesse non désirée est une véritable frayeur absolument terrible pour les femmes. Mais dans tout ça, on ne parle pas de violence sexuelle. La notion de violence sexuelle ne vient que à partir des années 80, je dirais.
Oui, on voit bien aussi comment le monde politique et le législateur a un petit peu de mal peut-être à s'adapter à cette nouvelle donne. J'ai appris par exemple en vous lisant, Malka Markovitch, qu'il avait fallu attendre l'élection de Valéry Giscard d'Estaing pour que la pornographie, en tout cas sa diffusion, soit régulée.
Absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, l'industrie pornographique, le capitalisme pornographique, s'est développé aussi dans ces années-là. Donc, au nom de la liberté, c'est une nouvelle forme de capitalisme qui s'est développée. Et donc, effectivement, avec avant, c'était, on se passait des revues sous la manche. Au 19e siècle, on parlait de publications obscènes et on faisait des photos, on disait de charme. Dans les bordels, je veux dire, tout ça n'est pas nouveau, mais là, tout d'un coup, c'est la vraie liberté avec ces films avec des titres complètement détournés qu'il y avait dans du côté de la place Clichy. Pour soi-disant une population d'hommes seuls immigrés qui auraient besoin d'avoir accès à une sexualité, etc. Et donc avec Blanche-Neige et les Sept Nains. Enfin, c'était toujours des espèces de titres complètement invraisemblables qui faisaient rire tout le monde. Sauf que derrière les images, ce sont des vraies femmes. Et puis il y a aussi en 72 un film aux États-Unis pornographique qui s'appelle Gorge profonde. Qui a été un énorme succès aux États-Unis, mais aussi en France et en Europe, où Linda Lovelace, qui était l'actrice, le scénario, c'est une femme qui a un clitoris au fond de la gorge. Et donc, elle est pénétrée de manière continuelle pour prétendument jouir par des fellations très profondes. Et elle dira dans les années 80 que celui qui a réalisé le film était c'était son souteneur, qu'elle avait un pistolet sur la tempe. Et là, c'était vraiment le film le plus transgressif et le plus extraordinaire. Il y avait aussi des croisières dans les années 70 de croisières pornographiques en mer du Nord, de bateaux Love and Peace et plus Love que Peace.
Alors, je vais vous faire écouter un extrait de film Malka Markovitch. Celui-là n'est pas pornographique. Il date de 1967. Dans le rôle principal, Jacques Brel. Le film est signé André Kayat. Les risques du métier.
L'instituteur va embrasser une fillette qu'il connaît depuis toujours sans pour autant penser à mal.
Bien sûr, et il peut aussi lui plotter les seins et essayer de la violer sans qu'on trouve ça extraordinaire.
La violer. Faut quand même pas exagérer, Mme Roussel.
Non, si ça n'avait tenu qu'à lui, quand il a commencé à l'embrasser, elle s'est pas rendu compte, elle a rien dit. Comment voulez-vous qu'elle réalise à son âge? Et puis elle s'est aperçue que ce salaud avait la main dans son chemisier. Elle s'est débattue pour se dégager, voilà. Tenez, regardez.
Catherine, regarde-moi. Ça s'est vraiment passé comme ça?
Oui, monsieur Baudouin.
Maurice, tu vois être Roussel en train de faire ça?
Pourquoi elle inventerait une histoire pareille?
Parce que vous n'allez pas me dire, monsieur le maire, que vous croyez à cette histoire.
Pour l'instant, je crois à rien, Roussel. Je m'informe.
Voilà, cette histoire, c'est celle donc de Jacques Brel qui incarne un enseignant qui est accusé par une de ses élèves de l'avoir agressé sexuellement. On apprendra finalement que cette jeune fille ne disait pas la vérité. L'enseignant est innocenté. Vous en parlez dans votre livre, Malka Markovitch, parce que c'est un film qui a beaucoup marqué et qui a eu aussi des effets. Je voudrais juste citer alors le témoignage d'une enseignante que vous mentionnez justement dans l'ouvrage, enseignante de collège des années 70, qui dit « Ce film nous a fait beaucoup de mal. Nous avions un collègue qui nous semblait avoir un comportement extrêmement entreprenant avec les gamines de 12-13 ans. Nous en avons parlé entre collègues. Nous n'avons pas insisté lorsque l'une d'entre nous a rappelé le film avec Jacques Brel. »
C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on est déjà dans la scénarisation de l'inversion de la jeune fille qui est évidemment menteuse, qui fabule, qui veut essayer de coincer ce bon instituteur qui n'a rien à se reprocher et donc qui fossilise cette loi du silence puisque il y a justement on est encore dans la période de la psychanalyse qui prétendent que les enfants imaginent, fantasment et qu'ils ne disent pas la vérité.
On le voit d'ailleurs, hein, on a vu cette semaine dans Le Canard Enchaîné qui a republié un extrait d'une interview de Françoise Dolto avec des propos justement autour de, on va dire, la responsabilité des enfants et l'acceptation quand il y a par exemple des cas d'inceste qui semble totalement incompréhensible aujourd'hui, pour expliquer justement peut-être qu'il y ait pu y avoir quand même ces propos et ces dérives et ce silence. Est-ce qu'il faut aussi y voir le fait que la révolution sexuelle, elle s'inscrit aussi dans une revendication plus large, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non seulement d'obtenir de nouveaux droits, mais il s'agit aussi, en tout cas en mai 68, de combattre l'ordre bourgeois. Et est-ce que combattre l'ordre bourgeois, ça passe aussi par le combat contre les mœurs bourgeoises, Malka Markovitch?
C'est exactement ça. C'est véritablement l'ordre bourgeois. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a une ambiguïté avec cette idée d'ordre bourgeois, parce que là, en ce moment, on essaye de dire ça appartient à un certain milieu et pas à un autre. Alors que l'ordre bourgeois, la vision familialiste, elle est absolument dans tous les milieux. On va dire que mai 68 va permettre de passer certaines frontières quand des trotskistes vont à l'usine ou quand des ouvriers vont aller dans des facs et rencontrer des jeunes femmes. Plus, je crois qu'il va y avoir un passage peut-être tout à fait artificiel, mais entre différents milieux, en tout cas l'illusion que certaines barrières ont été rompues, et ça fait partie de cette idée qu'on est en train de déstructurer l'ordre bourgeois. J'en suis pas du tout persuadée, mais en tout cas c'est cette représentation qu'il y a. Je voudrais revenir juste un instant sur l'extrait du film qui est tout à fait intéressant, puisque on dit, mais enfin bon, il t'a ploté les seins, mais t'as pas dit non, tu n'as rien dit, et c'est véritablement ce que met en avant Vanessa Springora sur la question du consentement, mais également une femme auteure qui a écrit donc en 2019 Le silence des femmes d'Hélène Vecchiali et qui analyse très bien comment la première défense, c'est d'intérioriser l'idée qu'on n'a pas dit non. Et d'ailleurs, même si on a dit non, on sait bien cette espèce de légende ancestrale, une femme qui dit non, en réalité, elle dit oui et j'ai envie qu'on insiste un petit peu plus et on fait croire aux hommes qu'il faut toujours insister un peu plus auprès d'une femme parce que non, ça ne veut pas dire complètement non.
Est-ce qu'à cette époque, Malcolm Markowitz a quand même des voix, alors soit des voix du côté des politiques, soit des voix du côté des intellectuels qui s'opposent à cela? Ou bien est-ce que s'opposer, c'est prendre le risque, je ne sais pas, d'apparaître par exemple comme quelqu'un d'extrêmement réactionnaire?
Absolument. Non seulement c'est prendre le risque d'être quelqu'un de réactionnaire, on se souvient de Royer, de Debray, de voilà, toute la classe politique qu'il y avait autour des gaullistes. Et puis, je vous dirais que même encore aujourd'hui, moi quand j'ai sorti ce livre il y a 2 ans, on m'a dit « tu vas faire le jeu des réactionnaires ». J'ai des amis qui m'ont dit « mais attention, tu es en train de toucher à quelque chose, ça va remettre en question mes 60 tu te mets du côté des pro-life, des anti-avortements, de l'église catholique, etc. » Et ça, c'est toujours la menace qu'il y a eu. Et puis dans les années 80, je parle de ma génération qui n'a pas pu parler à ce moment-là, il y avait le sida. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va aller dire? Il y a un truc qui est bizarre, je me sens pas très bien, mon prof a couché avec moi, alors que il y a cette horrible maladie qui décime principalement les hommes, les femmes aussi, mais disons une communauté qui a été largement stigmatisée, la communauté homosexuelle, et avec cette maladie où les vieux démons réactionnaires réapparaissent. Donc la parole a été confisquée dans les années 70 parce que sinon on est une prude, une mal baisée, ou alors une hystérique féministe américaine lesbienne. C'est-à-dire que on est très vite catégorisé. Ensuite il y a les années sida, donc quand même face à la maladie, un peu de dignité, vous êtes encore en vie les filles. Et puis dans les années 90, effectivement, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont les intellectuels, ceux qui font partie du cercle autour de François Mitterrand et qui vont être aux commandes pendant un certain temps, eh bien sont ceux qui étaient les baby-boomers et qui ont participé à cette révolution.
Voilà, et des intellectuels qui ont une autorité écrasante, imposante. Bonjour Antoine Dulcet.
Bonjour.
Vous êtes justement intéressé à la position qu'ont pu tenir un certain nombre d'entre eux dans ces années-là.
Oui, et non des moindres, on peut citer Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Philippe Solers ou Guy Hockenheim, et la liste n'est pas terminée. Un ensemble d'intellectuels qui ont signé plusieurs tribunes dans les colonnes de la presse à la fin des années 70, des textes bien souvent relatifs à des affaires judiciaires de détournement de mineurs, dans lesquels les signataires appellent clairement à dépénaliser les relations entre adultes et mineurs, sur le registre d'une libération sexuelle encore à achever. Alors j'ai retrouvé un extrait d'une émission de radio de l'époque qui donne un peu le ton de ce climat intellectuel et dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'affaire Matzneff. C'est Michel Foucault qui s'exprime sur l'antenne de France Culture en 1978 dans l'émission Dialogue. Il évoque sa vision du consentement des enfants dans ces cas de détournement de mineurs.
Écouter un enfant, l'entendre parler, l'entendre expliquer quels ont été effectivement ses rapports avec quelqu'un, adulte ou pas, etc., doit pouvoir faire comprendre, pourvu qu'on l'écoute avec suffisamment de sympathie et surtout en lui faisant suffisamment crédit, doit permettre d'établir à peu près quel a été le régime de violence ou de consentement auquel il a été soumis. Et aller supposer que du moment qu'il est un enfant, il ne peut pas expliquer ce qu'il en est, que du moment qu'il est un enfant, il ne peut pas être consentant, il y a là deux abus qui sont très, je crois, intolérables.
Voilà, une prise de position évidemment indéfendable aujourd'hui. De fait, les intellectuels signataires de ces tribunes apparaissent aujourd'hui au minimum très gênés par leurs écrits et de leurs propos des années 70. Certains, comme Philippe Solers, évoquent un contexte intellectuel qui expliquerait ces prises de position. D'autres assument, parfois pour d'autres, ces errements ressurgis du passé. Il faut signaler à ce sujet un texte très important, signé de Sorge Chalandon. C'était en 2001 dans Libération. Libé, en écho d'un vertige commun. Le journaliste et écrivain revenait sur une certaine promotion de la pédophilie qui avait cours dans les colonnes de son journal quelques décennies plus tôt. « C'est terrible, illisible, glaçant », écrivait Sorge Chalandon. Son texte se concluait ainsi. « Il aura fallu du temps, tout ce temps, pour que le gazouillement ou le silence des enfants souillés se transforme en mots, puis en colère, en accusation, enfin, et que les voix d'adultes prétendant que l'enfant trouve du plaisir à ses jeux soient recouvertes par les voix d'enfants qui disent que tout cela n'était que souffrance. » Le récit de ces souffrances, c'est peut-être ce qui avait été ignoré à l'époque par tous ces grands esprits.
Malka Markovitch, encore un mot. Vous avez évoqué le phénomène de génération. Alors, la génération à laquelle vous appartenez, qui n'avait pas le droit à la parole. Est-ce que vous pensez que le fait que la génération 68, qui a été au pouvoir et qui, progressivement, du fait de l'âge, est en train de le quitter, explique le fait qu'elle quitte le pouvoir, justement, pouvoir économique, pouvoir médiatique, pouvoir politique, qu'il y ait aussi cette libération de la parole-là. Cette génération commence à laisser la place et donc à laisser la place aussi à la parole.
Je ne crois pas. Je crois qu'en France, on est vraiment très, très en retard. Je veux dire, on voit ce qui s'est passé avec l'affaire DSK, comment tout de suite on a essayé de faire taire alors que tout le monde savait, connaissait les pratiques de Dominique Strauss-Kahn. Donc, je crois que simplement, il y a eu ce phénomène qui est parti plutôt des États-Unis avec MeToo et qui a essaimé à travers la planète. C'est-à-dire, c'est là, tout d'un coup, c'est un cri de libération. Et ce qui se passe en France, c'est terrible. C'est-à-dire que Vanessa Springora a un vrai talent littéraire. Ce qu'elle écrit est magnifique. Elle décrit les phénomènes d'emprise d'une manière absolument extraordinaire. Et du coup, on l'écoute. On l'écoute et on fait des mea culpa qui me semblent un petit peu tordus parce que dire c'était une époque, je trouve ça, la question n'est pas c'était l'époque, la question c'est peut-être de se demander, par exemple Cohn-Bendit dit mais c'était une époque, moi ce qui m'intéresserait c'est que les enfants qui tripotaient le sexe de Cohn-Bendit, que Cohn-Bendit dise peut-être ça leur a fait quelque chose. Je crois que c'est ça ce que les victimes ont besoin d'entendre. Et ça n'est pas seulement envers les femmes. Je crois qu'il y a énormément de silence chez les hommes. J'ai entendu beaucoup d'hommes aussi me parler de violences qu'ils ont pu avoir. Et c'est pas seulement du côté du milieu catholique avec les curés pédophiles. C'est dans absolument tous les milieux. C'est quelque chose qui est transversal dans toutes nos sociétés. Et je trouve un peu irresponsable, par exemple, la parole de Bernard Kouchner quand il dit « Ah bah oui, j'ai signé, bah je savais pas, c'est Jacques Lang qui m'a dit ». Donc là, vraiment, pour des gens qui ont été au sommet de l'État dans des responsabilités extrêmement importantes, je trouve que c'est un comportement totalement irresponsable et je dirais même infantile.
Alors faites mention d'une tribune qui avait été signée par un certain nombre d'intellectuels suite à la condamnation de trois hommes pour agression sexuelle après avoir été détenus assez longuement, me semble-t-il, en préventive. On en a beaucoup parlé d'ailleurs ces derniers temps. Merci beaucoup Malka Markovitch. Je rappelle le titre donc de votre ouvrage qui date de 2018 mais qui mérite d'être lu avec le regard de 2020. L'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle aux éditions Albin Michel. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Séverine Cassard, avec à la prise de son Jean Frédérics. À 12h45, vous retrouverez la suite dans les idées et Sylvain Bourmeau. Je vous donne rendez-vous lundi à 8h45 dans les matins de France Culture pour la transition et dans un instant, le journal de 12h30.